D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. Que suis-je d'autre dans Secret professionnel qu'un archet ? Je passe mes interrogations, que je transforme en questions, sur l'instrument de quelqu'un qui sait, en fonction d'une partition que j'ai écrite. France Culture n'est pas sans musique, en quelque sorte. Un archet, c'est un arc, son nom le dit. Et comme toujours, l'étymologie, science très hasardeuse et d'ailleurs révélatrice d'une certaine superstition rationaliste des Français, nous conduit à une raideur d'interprétation. L'archet ressemblait en effet à un arc à ses débuts, mais selon le grand Robert, le mot serait une dérivation de sens d'un même mot du XIIe siècle qui servait à désigner les parties d'un mur en arc de cercle. Et ce ne serait qu'au XIVe siècle qu'il aurait été appliqué à l'instrument que nous connaissons. On en trouve un exemple dans Guillaume de Machaut. Or, l'instrument existait au XIe siècle. S'est-il appelé archet dès l'origine ? A-t-il eu un autre nom pendant 300 ans ? Le nommait-on baguette, jonc tressé ou arzoupam ? Nous n'en savons rien. Ah, l'idée magique que le mot ressemble à la chose. Les Espagnols disent arco, comme nous en quelque sorte, mais les Allemands disent bogen et les Anglais bau. Le contenu sémantique, même relatif à quelque chose d'aussi apparemment universel qu'un objet technique, n'est pas le même d'un pays à l'autre. Le premier instrument à archet aurait été inventé par un roi démoniaque de l'île de Lanka, l'actuel Sri Lanka, 3000 ans avant notre ère. Ce roi s'appelant Ravana, on a appelé l'instrument Ravanastron. Voilà le type probable d'invention rétrospective d'une origine et d'une étymologie. Ce roi démoniaque n'ayant bien entendu pas existé, il est probable qu'on ait incarné une superstition à l'aide d'un nom déjà existant, celui de l'instrument. Il y avait l'instrument, on a créé le dieu. Je crois savoir comment ça se passe, c'est le même moyen qu'utilise la fiction. La légende, c'est une fiction malhonnête, une invention qui voudrait se faire passer pour la vérité. Aujourd'hui, je pourrais dire, le nom de Twitter vient d'un dieu de Polynésie nommé Twitteru, dieu des oiseaux et du pépiment, qui a obtenu une place à la table des dieux à force de bavardage. Vous souriez ? Pensez aux théories du complot et autres explications délirantes du monde qui fleurissent sur les réseaux sociaux et que tant de gens colportent. Mon invention pourrait très bien devenir réalité pour des gens assoiffés de croire, c'est-à-dire de renoncer à penser. Secret professionnel étant une émission contre l'interprétation magique des choses, je voudrais aujourd'hui essayer de comprendre ce qu'est le très simple instrument appelé archet et qui, tout simple qu'il est, a donné lieu à du légendaire. Quel est donc le secret professionnel d'un archetier ? Je reçois pour en parler Stéphane Thomachaud, archetier à Cucuron, dans le Vaucluse. Stéphane Thomachaud, sauf erreur, on ne trouve pas en Occident d'instruments à cordes frottées dans l'Antiquité grecque et romaine. Il y avait des instruments à cordes pincées, mais pas d'archets. De quand date, si on peut le savoir, l'invention de l'archet et des instruments concomitants ?
L'archet a été probablement inventé en même temps que le violon, ou ce qui pourrait ressembler à un violon. Probablement, les instruments à cordes frottées ont été joués ou inventés et joués pour la première fois en Chine. Et je crois qu'on peut facilement remonter à 2000 ans.
2000 ans avant Jésus-Christ.
Non, 2000 ans.
À partir de maintenant.
À partir de maintenant, oui.
C'est-à-dire à peu près au début de notre ère.
Au début de notre ère. Et l'instrument a voyagé certainement grâce aux commerçants arabes et sont arrivés sans doute au début du deuxième millénaire en Europe grâce aux arabes. On retrouve le rob, qui est vraiment l'instrument primitif, le violon primitif arabe, qui existe toujours plus ou moins, qui est toujours plus ou moins joué dans toute la partie arabique, Yémen. C'est un instrument qui est toujours joué. Et donc, l'instrument a été développé ensuite chez nous au début du Moyen-Âge.
Le rob, c'est ce qu'on appelle le rebec, c'est ça qui a été.
Voilà, rob, rebec, absolument.
Et qui était, je crois, arrivé en Espagne d'abord, non, c'est ça ?
C'est possible, oui, oui.
Et par les morts, par les invasions.
Oui, et aussi on retrouve l'ancêtre du violon On retrouve ces premiers instruments, bizarrement, dans le nord de l'Europe, en Écosse ou en Suède.
Donc, en tout cas, vous n'êtes pas dans l'interprétation qu'on trouve parfois, et qui est peut-être légendaire, justement, que les instruments à cordes frottées seraient arrivés avec les croisades et qu'on aurait rapporté des pays musulmans ou arabes qui utilisaient ces instruments-là. Puisque vous dites que ça date, c'est plus ancien, ça date de la Chine et que le commerce...
Oui. Mais c'est possible qu'effectivement, ces instruments étaient rapportés à cette époque-là.
Donc, en tout cas, c'est vers le XIe siècle, c'est ça qu'ils s'implantent, que ces instruments...
Voilà, je pense que c'est au début du deuxième millénaire que l'instrument est arrivé.
Alors, l'archet, nous allons en parler, à changer, et vous allez nous expliquer ça. Mais je voudrais avant tout que vous nous expliquiez... De quoi s'est fait un archet? Et comme je parlais d'étymologie, je crois que c'est important que vous m'expliquiez les mots de l'archet, car quand j'ai fait mes recherches, moi j'ai trouvé des tas de mots qui sont tout à fait français et très compréhensibles en français, mais dès qu'on se dit que ça s'applique à un archet, moi je comprends plus. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une tête?
Ben, la tête, c'est la partie supérieure de l'archet. Si on met un archet verticalement, c'est la partie supérieure, là où s'accroche le crin. En fait, un archet, c'est une baguette, une hausse qui bouge sur la baguette.
Alors, autre mot, la hausse, c'est quoi la hausse?
Alors, la hausse, c'est la partie noire qui est souvent en ébène et qui va glisser sur la baguette à l'aide d'une vis et qui va tendre le crin. La baguette, le crin de l'archet. Donc, chaque musicien a sa tension et disons qu'il y a une tension optimum pour que l'archet fonctionne bien.
Autre mot de l'archet, c'est le bec.
Alors, le bec, c'est une partie de la tête. C'est la pointe, l'extrême pointe de la tête.
Et quelle est sa fonction?
C'est plus une fonction esthétique.
Ah, donc voilà une chose intéressante. C'est-à-dire que cet instrument... qui, en fonction de son nombre d'instruments qu'on pourrait penser uniquement utilitaire, n'oublie pas l'esthétique.
Absolument. Et je pense que, alors, pour les archets plus anciens, les archets dits baroques, les têtes, elles avaient un bec aussi parce qu'elles s'inspiraient probablement de têtes d'oiseaux. Et cette forme en tête d'oiseau a plus ou moins disparu après pour faire... quelque chose d'un peu plus ramassé, un peu moins animal. Sauf peut-être encore jusqu'au début du 19e, certains archetiers français continuaient à faire des têtes pour les archets de violon, surtout pour les archets de violoncelle, avec un derrière de la tête qu'on appelle le dessous de cou et que nous appelons encore aujourd'hui col de cygne.
Donc l'ornement n'est pas oublié. Enfin, vous dites qu'il est un peu plus oublié maintenant. On fait moins d'archets ornés?
Non. Alors, il y a eu des archets qui ont été avec des très très grandes ornementations. C'était, on va dire, peut-être à la fin du 18e, au début du 19e, chez les Allemands, un petit peu chez les Français, à Mirecourt, donc, qui est la capitale, qui est la ville où a vu naître la lutherie et l'archetterie française. Où on mettait de la nacre, on mettait de l'ivoire, de l'or, de l'écaille de tortue, tout un tas de matériaux qui sont un peu compliqués d'ailleurs aujourd'hui à utiliser. Peut-être qu'on en reparlera plus tard.
Le bouton.
Alors le bouton, c'est la partie qui actionne la vis et qui va faire avancer ou reculer la hausse sur la baguette et qui va mettre en tension l'archet.
Alors, vous nous avez parlé, Stéphane Tomachou, de crins. Les crins sont en quoi?
En crin de cheval.
En crin de cheval.
Tout simplement.
Tout simplement.
Et qui viennent un peu partout. Je pense qu'on a... Là, on peut dire que ça fait 2000 ans qu'on utilise le crin de cheval pour faire vibrer les cordes.
Mais c'est du crin de cheval traité? C'est du crin de cheval
non.
Pur?
C'est
du
crin Alors, de cheval... Alors oui, pur, sélectionné. Pour les avoir les plus le plus lisse possible, le plus régulier possible. Ce qu'on trouve de meilleur depuis une vingtaine d'années, c'est peut-être le crin de Mongolie, mais j'ai vu des très beaux crins venant d'Australie. Il y avait du crin il y a 30-40 ans, on faisait venir pas mal de crins d'Ukraine, du Canada aussi. Mais bon, les marchands de crins sont souvent très discrets sur les origines. Non, pas sur l'origine, ils le disent quand même, mais exactement la façon de le travailler ou d'obtenir ces crins-là. C'est des crins blancs. Le crin noir a été beaucoup utilisé aussi au 19e. On l'utilise encore aujourd'hui, principalement pour les archets de contrebasse. On a pensé pendant un certain temps que le crin noir était plus résistant que le crin blanc, puis en fait, non.
Ça dure combien de temps pour, disons, si tant est qu'on puisse le mesurer, mais pour un instrumentiste ou un soliste qui travaille beaucoup, qui travaille toutes les semaines, est-ce que le crin tient 3 mois, 6 mois, 1 an?
Alors, en général, le musicien professionnel qui travaille, on va dire les jeunes professionnels, ils font plus de 6 heures par jour, même 6-8 heures. Après, un grand musicien professionnel, il va faire seulement peut-être 2-3 heures par jour, 4 heures maximum. Sa mèche de crin, il va la changer au moins une fois par an.
Et le bois, vous nous avez parlé d'ébène tout à l'heure. Est-ce que c'est le seul bois qui est utilisé? Est-ce que
non, alors l'ébène, c'est le matériau principal de la hausse. Donc cette partie qui sert à tendre le crin sur la baguette. On a utilisé d'autres matériaux. On a utilisé de l'ivoire, bien sûr, de l'os, de l'écaille de tortue.
Vous venez de citer deux matériaux qui sont interdits, là, l'ivoire et l'écaille de tortue, maintenant c'est plus utilisable.
Alors, qui sont soumis à une loi CITES. C'est une interdiction d'importation, d'exportation, mais quand ces matériaux-là proviennent de stocks pré-convention, c'est-à-dire avant la CITES, ils sont autorisés à condition d'obtenir l'autorisation du ministère de l'Environnement.
D'accord. Et donc, quels sont les autres types de bois? J'ai lu qu'on utilisait du bois brésilien, du bois de palmier.
Alors voilà, en fait, la partie principale de l'archet, ce qui va faire la qualité d'un archet, c'est sa baguette. Et effectivement, la baguette est en Pernambouc, en Caesalpinia et Chinata, l'âme, c'est le nom latin, et qui vient de la Mata Atlantica, qui c'est la forêt tropicale atlantique brésilienne.
Donc ça veut dire que vous, en tant qu'archetier, vous utilisez des fournisseurs, vous êtes obligé d'acheter des fournitures, donc le crin, vous l'avez parlé, le bois, donc est-ce que tout ça est très cher, est-ce que c'est ruineux, est-ce que vous avez tenté vous-même, dans votre carrière, de changer de bois, en vous disant que c'était bien compliqué d'aller se fournir au Brésil ou trop cher, je ne sais quoi?
Alors oui, effectivement, j'ai essayé d'autres essences de bois qui n'était pas concluante. Le Pernambouc, c'est vraiment le bois qui a permis, j'irais presque, à révolutionner l'archet dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
De quelle façon?
Alors, le violon a évolué, donc l'archet a évolué. La musique aussi a évolué en même temps. Pour prendre un exemple assez simple, Antonio Vivaldi, qui était, outre un grand compositeur, était aussi un grand violoniste. On sait qu'il visitait Antonio Stradivari à Crémone. Et si, avec une machine à remonter le temps, on avait pu lui donner un caprice de Paganini, donc écrit un siècle et demi plus tard, il est peu probable qu'il aurait pu le jouer. La technique de Paganini était très compliquée, mais pas seulement, je pense qu'avec du travail, il y serait presque arrivé. Mais le violon et l'archet n'étaient pas conçus pour faire ce genre de musique. C'est-à-dire que le violon était baroque, l'archet était baroque, c'est-à-dire qu'il était plus léger, la tenue était différente. À partir de la fin du 18e et du début du 19e, on a commencé à tenir l'archet différemment.
Pour quelle raison?
Alors, en fait, le violon, dans le courant du 18e, est devenu un instrument majeur. C'est-à-dire que avant, le violon, depuis le Moyen-Âge, était un instrument pour faire danser les gens. C'était un instrument populaire. Et dans les châteaux, on jouait de la musique très très savante, très compliquée, et très belle d'ailleurs. Mais c'était plutôt avec la famille des viols, les viols de gambe. Et le violon, On s'est rendu compte que si on mettait, quatre ou cinq violons à jouer ensemble, ça faisait un peu comme un chœur. Et le violon a commencé un peu à être de plus en plus utilisé. On s'est rendu compte que le violon, là, je vais être un tout petit peu technique, même si je suis pas luthier, je connais un tout petit peu quand même. Les violons baroques, donc les violons de l'époque de Stradivari, avaient un renversement qui était différent. C'est-à-dire qu'ils avaient un chevalet qui était beaucoup plus bas. La touche était plus courte. L'angle que faisaient les cordes sur le chevalet était beaucoup moins important. Et à la fin du 18e, on a commencé à utiliser des cordes en métal. Et surtout, on a commencé à utiliser des tensions beaucoup plus importantes. Et ce qui a permis d'avoir des instruments beaucoup plus puissants. Et cette puissance, elle était obligatoirement accompagnée par l'archet. Il fallait que l'archet aussi ait plus de, comment est-ce qu'on pourrait dire simplement, peut-être plus de force pour mettre en vibration les cordes. Ce qui fait que tous les instruments d'aujourd'hui de ces grands maîtres italiens, les Guarneri, Stradivari et compagnie, sont des instruments baroques qui ont été modernisés. C'est-à-dire qu'on les a débaroqués, je ne sais pas si on peut dire ça. On a coupé la tête, on a retiré le manche. On a remis un manche neuf, donc en remettant la tête d'origine, et en changeant le renversement, avec un chevalet plus haut, avec une barre à l'intérieur sur la table d'harmonie qui était avec un peu plus de tension, avec une âme, ce très joli mot qui est la partie en bois qui fait rejoindre du côté des aigus à l'intérieur du violon la table avec le fond. Il y avait beaucoup plus de tension. Et là, un exemple très simple, peut-être le concerto pour violon de Beethoven. S'il avait été joué avec un violon tel qu'ils étaient faits à Crémone au début du 18e, on ne l'aurait pas entendu. Ou alors il aurait fallu qu'il se fasse accompagner par 7 ou 8 musiciens. Donc l'archet, il a accompagné ces changements. On a tenu l'archet un peu plus en arrière. Il fallait sauter. L'expression est devenue différente.
Nous allons maintenant entendre un des meilleurs manieurs d'archet du monde, qui est Yo-Yo Ma. Il interprète sur un violoncelle, bien sûr, le menuet de la suite numéro 1 en sol majeur de Jean-Sébastien Bach. Stéphane Tomachot, dans la première partie de ce secret professionnel, nous avons parlé de l'histoire de l'archet et de son évolution. Je voudrais bien maintenant que vous me disiez, d'abord, comment il se fait, vous l'avez mentionné, que c'est à Mirecourt que se soient trouvés les premiers archetiers français, c'est dans les Vosges. Et d'autre part, quelle a été, vous, votre formation? Est-ce que vous venez d'une famille d'archetiers? Est-ce que vous avez inventé votre métier? Dites-moi tout ça.
Alors, j'ai appris mon métier à l'école de lutherie de Mirecourt, du temps où il y avait une section archeterie.
Comment ça se fait que Mirecourt soit devenu, dans les Vosges, soit devenu ce lieu si important
alors,
pour les archetiers?
C'est la cour des ducs de Lorraine qui a fait amener d'Italie un luthier pour pouvoir s'occuper ou fabriquer les violons de la cour. Et ce luthier a formé d'autres luthiers après, qui étaient donc des Lorrains, des Vosgiens.
Et c'est là que vous-même avez fait vos débuts et d'apprentissage.
Voilà. Alors, la technique de fabrication d'archeterie de Mirecourt, c'est la technique française. Et cette technique française, elle a influencé le monde entier. Le monde entier s'en est inspiré.
Et pourquoi? De quelle façon?
Alors, d'abord, elle a donné les plus grands archetiers du monde. Les Stradivarius de l'archet sont tous français, sont des grands maîtres de la fin du 18e, début du 19e, et aussi jusqu'à la fin du 19e.
Je crois qu'il y avait un certain Tourte qui a eu une influence.
Alors, il y avait Léonard Tourte, François-Xavier Tourte, et il y avait aussi tous les grands Perçois, Dominique Pécat, Simon, jusqu'à Voirin, qui ont influencé tous les archetiers de la planète.
Par quoi elle se distingue, cette école française, par rapport, s'il y en a une école italienne ou allemande?
Alors, il n'y a pas d'école italienne d'archeterie, bizarrement. Il y a eu une école allemande qui est sous-estimée, à mon avis. Il y a eu vraiment des grands maîtres qui méritent vraiment le détour. Bauch, Suss et d'autres. Il y a eu une école anglaise aussi, qui est assez importante, qui a commencé avec les Panormaux, Dodd et tant d'autres. Mais l'école française a toujours été un peu la référence. Peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Moi, je sais que dans les années 90, j'ai eu beaucoup d'apprentis, stagiaires du monde entier qui ont travaillé dans mon atelier.
Et de manière pratique, comment ça se passe? Il y a une école là-bas, dans les Vosges?
Oui, à l'école de lutherie de Mirecourt, mais qui malheureusement a fermé au début des années 80 parce que le maître archetier, qui s'appelait Bernard Houchard, était le dernier d'une grande lignée d'archetiers, des Houchard de Mirecourt. Malheureusement, il est mort et puis on n'a pas trouvé à le remplacer. Et finalement, on a arrêté cette formation.
Donc, il n'y a plus d'école de lutherie
Si, il y a une école de lutherie, mais d'archeterie, non, il n'y a plus. En fait, c'était dramatique parce que dans les années 60, des grands luthiers comme Étienne Vatelot, Jean Boer et d'autres, Bernard Milan, se sont rendus compte que il n'y avait plus d'archetiers vivants ou quasiment plus d'archetiers. Il y avait un trou de génération entre ma génération à moi et
votre génération. Moi, je vous vois, mais les auditeurs vous disent, ne vous voient pas, dans quel âge avez-vous?
Moi, j'ai 57 ans.
D'accord.
Donc, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, 75. Et quand j'ai commencé, les plus jeunes archetiers en exercice, ils étaient plus que deux ou trois, avaient plus de 50 ans. Donc, je me retrouve maintenant à être la génération d'archetiers le plus âgé.
Mais où vont les jeunes gens ou les jeunes filles qui veulent devenir archetiers maintenant si cette école a disparu?
Alors, en général, ils rentrent en apprentissage chez un archetier ou pour certains ou certaines, comme ma fille par exemple, Joséphine Tomachot, a appris il y a 5 ans le métier avec moi. Et maintenant, elle se débrouille toute seule.
En fait, il n'y a plus de diplôme. Il y a une formation et on devient
archetier. Non, le diplôme d'archetier, il existe toujours. Il y a un CAP. Mais je crois que ça fait maintenant quelques années que personne ne l'a passé.
D'ailleurs, il faut dire que vous avez le titre de maître d'art qui est décerné par le ministère de la Culture. Je crois d'ailleurs que c'est une invention de Jacques Chirac, influencé par son amour du Japon, d'où il a rapporté cet équivalent des trésors vivants. Et je crois que dans les maîtres d'art, j'en ai reçu un ici dans Secret Professionnel il y a quelque temps, qui est Christian Bonnet, qui fabrique des lunettes Aneca à Paris. C'est une qualification spéciale qui entraîne des obligations de formation, je crois précisément.
Alors oui, le ministère de la Culture avait mis un dispositif du maître et de son élève. Et effectivement, j'ai eu une élève qui s'appelle Doriane Baudard, qui est d'ailleurs maintenant, aujourd'hui, une archetière de grand talent.
Une question très prosaïque, mais après tout pas inintéressante. Combien ça coûte un archer? Parce que vous m'avez parlé de crin de cheval de Mongolie, de bois du Brésil. Ça coûte très cher?
Alors, pour les moins chers, ce sont quelques dizaines d'euros pour des archets fabriqués en Chine, pour les élèves, pour les débutants, pour des petits archets de quart, de huitième, de demi. Mais
un archet de chez Thomas Chaussette.
Et alors, un archet de chez moi, les prix commencent aux alentours de 5000 euros et vont jusqu'à 8000.
Et depuis le retour de, vous en parliez tout à l'heure, du baroque dans les années 80, est-ce qu'on vous a demandé, est-ce que vous fabriquez des instruments anciens et des archets anciens, comme des archets de viol de gamme, par exemple,
ou... Alors, oui, oui et non. Je ne fabrique pas, mais c'est un monde qui est juste à côté du nôtre, l'archeterie baroque, et qui est absolument passionnant. Et il commence à y avoir quelques archetiers très, très compétents dans ce domaine.
J'ai entendu dire d'ailleurs, pour nous approchant de la fin de ce secret professionnel, que nous avons parlé de l'évolution de votre métier, là, enfin de l'archet même, et à l'instant même du retour vers les instruments anciens. Est-ce que l'archet a achevé son évolution d'après vous maintenant? J'ai vu que le crin pourrait être remplacé par un autre matériau qui est expérimenté par l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Est-ce que c'est juste une chose pour journalistes ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que votre instrument a achevé son évolution?
Ça, c'est une très bonne question. On a essayé d'autres matériaux pour le crin. On a essayé, bien sûr, le nylon. On a même essayé de l'acier, des fils d'acier très fins. Pour l'instant, ce qui donne le meilleur résultat, c'est le crin de cheval. Le crin de cheval, peut-être, c'est ce mariage entre la baguette qui est en pernambouc, ce crin de cheval qui permet sans doute une propagation des vibrations meilleures. Parce que l'archet est un instrument qui vibre. Différents archets vont faire sonner différemment un même violon. Et souvent, un archet va être adapté aussi à un certain style de musique. Comme je disais dans la première partie, il y avait une expérience très intéressante qui avait été faite par Christophe Coin il y a quelques années sur scène au conservatoire de la rue de Madrid. Il avait fait jouer des quatuors avec des instruments baroques et des instruments modernes, avec des archets baroques, des archets de transition, ce qu'on appelle entre la période baroque et l'archet tel que je le fabrique moi, donc l'archet 19e. Et c'était absolument passionnant d'écouter la patte de son qui sortait des instruments baroques avec des archets baroques. Et après, quand ils étaient la même partition jouée avec des instruments modernes et des archets modernes, c'était complètement différent. Y compris le quatuor de Beethoven joué avec des instruments baroques, donc Monteboyau et avec des archets baroques. En fait, il y avait des passages qui n'arrivaient même pas à être joués.
Voilà. Pour finir, Stéphane Thomashaud, le secret professionnel d'un archetier, est-ce que c'est l'aller-retour entre la musique et la technique? Vous nous avez dit que la musique a influencé la technique, a influencé les archets, mais est-ce que le contraire s'est produit? Est-ce que la technique a pu influencer la musique et est-ce que votre métier est à la confluence de ça?
Je pense... Très modestement quand même que l'archetier et le luthier, on a accompagné, on a répondu un peu à ce qu'on nous demandait certainement. En même temps, j'ai très bien connu un compositeur qui a été de cette maison d'ailleurs, qui s'appelait François Verken, et dans ses compositions... Quand il y avait une partie de violon, il avait toujours un peu peur que le violoniste ait un petit peu de mal à suivre ou qu'il puisse au moins jouer ce que lui avait dans la tête. Donc je pense que les compositeurs sont peut-être à l'origine de toute cette évolution technique.
C'était Secret Professionnel, le 261e. Dans trois semaines, après les élections, je parlerai du secret professionnel de la restauration d'un chef-d'œuvre de Max Ernst. Réalisation Catherine Salle, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Philippe Thibault. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.